de rééducation familiale, des programmes pour également régulariser la situation des travailleurs qui sont à statut précaire ou qui sont sans papier ici. Et je pense que je veux aussi en faire un engagement que tous les candidats ici, on va travailler aussi fort qu'on peut pour être sûr que les gens ne soient pas obligés de retourner dans les difficultés qu'on connaît présentement en Haïti.
Alors, lors du dernier débat entre les deux candidats, il y a plusieurs points qui ont été soulevés, la question du logement et la question de sécurité. Et on sait que à Montréal-Nord, en fait, il y a une bagaille que nous sommes capables de reprocher. Et la mairesse actuelle, c'est la question d'insécurité. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus?
Mais ça fait plusieurs années, à Montréal-Nord particulièrement, que moi, j'œuvre auprès des jeunes à essayer de travailler, à faire en sorte qu'ils puissent se réinsérer dans notre communauté, qu'ils puissent faire une différence et devenir des leaders dans la communauté. Ce qu'on voit à Montréal-Nord, c'est le legs de plusieurs années d'indécision politique, d'appauvrissement économique dans nos communautés et de prendre sa population pour acquis. Si nous sommes dans la situation telle que nous la vivons présentement à Montréal-Nord, c'est malheureusement le legs d'une équipe de Denis Coderre, de l'équipe de Mme Black, qui n'ont pas su prendre les bonnes décisions pour accompagner particulièrement nos jeunes vers un chemin beaucoup plus prometteur. Et quand je parle de l'exemple du peu d'intervenants et de travailleurs de rue qu'il y a dans notre communauté depuis déjà deux décennies pratiquement, c'est impensable de pouvoir poursuivre vers ce chemin-là. Quand je parle du fait qu'on a les organismes les plus sous-financés à la mission, alors qu'on a une tâche tellement colossale à faire dans cette communauté-là, ben ça aussi, c'est une responsabilité du municipal. Quand je regarde le centre sportif qui n'existe pas, ben là aussi, c'est une responsabilité du municipal. Donc, on a malheureusement le legs de personnes qui sont élues et qui nous prennent pour acquis. Et ça, il faut absolument que ça change pour qu'on puisse voir un véritable changement dans notre communauté. Et moi, c'est mon engagement prioritaire. Vous me connaissez déjà pour mon implication. Et ça, ça va se poursuivre maintenant que je vais devenir maire de Montréal-Nord. Mais pour cela, il faut que la communauté puisse supporter des candidats qui sont compétents. Parce que c'est ça la différence qu'on a avec Projet Montréal. C'est qu'on voit qu'on a Dominique Olivier, on a Daphné Collin, on a Henri Robert Durandis, on a Erika Alnius, on a Marie Sterling, on a une brochette de candidats qui proviennent de notre communauté avec des expertises qui vont servir à l'ensemble de la communauté de Montréal. Ces gens-là sont là parce qu'ils ont des compétences, mais aussi parce qu'ils sont des personnes qui sont capables de faire des véritables changements auprès de notre communauté.
Et ça, il nous reste très peu de temps pour terminer. Il nous reste très peu de temps pour terminer, Will. Si tu peux terminer en quelques secondes, parce que vos temps sont limités, malheureusement.
Je vais laisser mes camarades poursuivre.
Alors, qui veut embarquer? Madame Collin, Daphné Collin,
en peu de mots, une des choses que je trouve très importante, c'est d'aller voter. Dans le passé, on a souvent reproché à notre communauté de ne pas voter. Et je pense qu'on doit briser ce mythe. Allez voter. On a besoin de votre support. Chaque vote compte et on a besoin de chacun des membres de notre communauté pour qu'ils nous supportent. Parce que après, c'est des fruits que vous allez que vous plantez en nous. Donc on vous attend dans les prochaines journées, le 30 et le 31 pour le vote par anticipation et le 6 et le 7 novembre pour les journées de vote.
Alors, Henri Robert.
Je vais aller dans le même sens avec les camarades. Je m'a dit comme ça que oui, communauté, nous demandons pour nous accorder nos votes. Son investissement que nous avons fait dans la tête, nous, dans Montréal et dans la société que nous vivons là-dedans. Et il y a une bagage que pour nous, nous-mêmes, dans le projet Montréal, nous plusieurs, et nous, là, nous avons cohésion, nous avons cohérence même dans la parole. Nous. Alors, une complétée, l'autre, ça veut dire que nous prêts pour nous travailler ensemble et c'est sûr et certain, bon, il fait positif pendant un paquet d'années sous bien-être communauté, ça, que nous-mêmes n'a représenté tout, parce que nous-mêmes, nous pas place seulement comme élus en général, mais nous tous, nous c'est haïtiens. Oui, si on bagaille pour nous, fait pour communauté, on a fait correctement et comme à l'habitude.
Alors, ma paix terminée avec Madame Dominica Olivier, que vous avez une responsabilité très lourde, si jamais c'est votre formation et qui est élue le 7 novembre prochain.
Eh bien, moi, je vais vous dire, moi, je pense que les Haïtiens ont l'habitude de faire l'histoire. Hein. On sait que c'est là qu'on s'est mis debout la première fois contre l'esclavage. Ben, je dirais qu'à Montréal, toute proportion gardée quand même, on a la chance de faire l'histoire. On a la chance d'être assis à la grande table avec un maire d'arrondissement, avec une présidente du comité exécutif qui est le numéro 2 de la ville, avec 4-5 conseillers de ville. Alors, je dis aux gens de la communauté haïtienne, c'est vraiment notre chance de pouvoir prendre toute la place que nos parents, que votre génération, Raymond, avait construit pour nous pendant plus que, ça fait maintenant quoi, 50 ans que la communauté haïtienne est là, ben on a la chance de prendre toute notre place. Ne la laissons pas passer. On compte sur vous, on compte sur vos votes.
Alors, c'est là-dessus qu'on va arrêter à plusieurs reprises. Je l'ai répété, je dis dans toute l'histoire du Canada, c'est pour la première fois autant de candidats dans une élection issue de la minorité visible. Et je sais que les autres formations ont des Haïtiens et Haïtiennes également, mais en quantité, et vous êtes quand même assez nombreux et nombreuses. Alors, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Malheureusement, nos temps sont limités, mais on fait ce qu'on peut. Madame Valérie Plantin était invitée. Malheureusement, on ne l'a pas eue. Et Denis Coderre est déjà passé à l'émission. Et vous allez entendre samedi les autres candidats du parti de Denis Coderre. Je vous dis bonne chance. Moi, je n'ai pas le droit de dire et où je vote, je suis neutre. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est bonne chance.
Merci beaucoup, Raymond. Et communauté, s'il investit votre ligne en nous, il n'y a pas besoin de regret.
Alors, invitez-nous. C'était M. Will Prosper. Et nous gagnons Henri-Robert Durandis, animateur de radio, ancien commissaire scolaire également. Alors, nous gagnons Mme Dominique et Olivier. Et puis, nous gagnons Daphné Collin qui était avec nous. Alors, m'a souhaité nous bonne chance. Et n'a reparler après. Nous prenons une pause et nous retournons tout de suite après.
Par les amis, un amour me réjouissait. Il baisse mes lauriers et me console dans les jours sombres. Mais c'est demain que je vais laisser ces gens qui m'aiment et que j'aime à mourir. Mais c'est ça la vie, oh 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 oh. Mais c'est ça la vie, oh oh oh. Partir, partir va d'autres mondes. Il faut quitter des chaînes ou s'armer contre le sort. Mais c'est demain que commence ma grande lutte, lutte pour l'existence. Mais c'est ça la vie, oh, oh, oh. Mais c'est ça la vie, oh, oh, oh. Les autres me saluent, toi tu fonds l'arme. Ma chérie, si je t'aime, je dois préparer notre avenir. Mais dès demain je poserai la première pierre, car il faut travailler pour vivre. C'est la loi de la vie, oh, 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 oh. C'est la loi de la vie, oh, 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 oh. Je sais que tu vas pleurer, oui Gladys. Je sais que tu as du chagrin. Salut, toi tu fonds l'arme. Ma chérie, si je t'aime, je dois préparer notre avenir. Mais dès demain je poserai la première pierre, car il faut travailler pour vivre. C'est la loi de la vie, oh, oh, oh. C'est la loi de la vie. Je sais que tu vas pleurer, oui Gladys. Je sais que tu auras du chagrin.
J'ai le grand plaisir de recevoir un grand médecin à l'émission Samedi Midi Inter. C'est pour la deuxième fois qu'il va intervenir sur Radio CKUT à Montréal. Alors, Dr. Roy, je vous salue et je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à l'émission Samedi Midi Inter.
Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Et Dr. Roy, et on va parler d'un sujet qui est quand même très, et je dirais, important. Et quand j'ai vu la façon que l'ancien et chef des forces armées américaines est décédé, et il a marqué l'histoire américaine en devenant le premier noir également secrétaire d'État. Je me suis dit, il n'y a pas d'autre personne que vous, ou bien Dr Leblanc que j'allais chercher. Alors, si vous me permettez, je vais quand même donner une brève information sur vous. Docteur Jean Roy est médecin hématologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. Il a obtenu son diplôme de médecine de l'Université Laval, de spécialiste en médecine interne de l'Université McGill et d'hématologie de l'Université du Minnesota. Il se spécialise dans la greffe de moelle osseuse et le traitement du myélome multiple. Alors, Dr Roy, c'est quoi exactement le myélome multiple?
Alors, le myélome multiple, c'est une forme de cancer du sang. C'est une maladie qui est relativement rare lorsqu'on la compare à d'autres formes de cancer. L'incidence est d'à peu près 7 personnes par 100 000. Donc, c'est quand même un cancer qui est le deuxième cancer le plus fréquent après le cancer des ganglions qu'on appelle le lymphome. Et pour des raisons qu'on ignore, il est plus fréquent chez les personnes de race noire. Alors, il semble y avoir une petite composante génétique qui fait en sorte que la maladie se présente plus fréquemment chez les personnes âgées, chez les personnes de race noire, et moins fréquemment chez les jeunes et chez les personnes d'origine asiatique. Donc, c'est une forme de cancer qui peut mener à différents problèmes. Alors, outre le remplacement de la moelle osseuse qui va donner ce qu'on appelle des cytopénies, c'est-à-dire une diminution des cellules normales qui donne de l'anémie, qui donne une diminution des plaquettes qui sont importantes pour la coagulation du sang, et un affaiblissement du système immunitaire. Le myélome va aussi donner un affaiblissement des os, qui va conduire à de l'ostéoporose, à des fractures et à un syndrome douloureux. Donc, c'est une maladie qui va donner plusieurs problèmes de santé et qui va se présenter le plus souvent par des douleurs progressives au niveau des os, principalement au niveau du dos.
Alors, je me rappelle quand je voyais le décès de Colin Powell, immédiatement, la première personne à qui j'ai pensé, c'était vous. Alors, ce qui est important de souligner, M. Colin Powell, le défunt, a eu ces deux vaccins, et puis c'est la COVID qu'il a attrapé, qu'il a emporté. Est-ce qu'il y a un petit problème quand on a le myélome multiple? De faire attention, par exemple, là, pour vous protéger davantage.
Oui, tout à fait. Alors, le problème, lorsqu'on a un cancer hématologique comme le myélome multiple, mais c'est aussi vrai pour d'autres types de cancers comme la leucémie, les lymphomes, les pré-leucémies, ou lorsqu'on a reçu de la chimiothérapie à haute dose, dont notamment une greffe de moelle osseuse, le système immunitaire n'est pas suffisamment fort, n'est pas suffisamment mature pour pouvoir gérer les infections. Et la partie importante du système immunitaire qui est activée grâce aux vaccins demeure faible après des traitements de chimiothérapie, de sorte que malgré le vaccin, on commence à comprendre que les gens qui ont eu des cancers du sang et qui ont été vaccinés ne développeront pas des anticorps de façon aussi normale, de façon aussi importante que chez des gens normaux. Alors malheureusement, le vaccin peut ne pas susciter une réponse immunitaire suffisamment bonne pour pouvoir être protégé du virus de la COVID-19. C'est la raison pour laquelle actuellement, les différents organismes de gouvernementaux et les sociétés de cancer recommandent aux gens qui ont un cancer du sang d'avoir une troisième dose du vaccin de la COVID, puisque ça augmente les chances de fabriquer des anticorps et donc d'améliorer la protection.
Qui sont les gens à risque, et Dr. Roy?
En fait, tous les patients qui sont sous chimiothérapie, tous les patients qui ont reçu une greffe de moelle osseuse récemment, c'est-à-dire dans les 6 derniers mois, ou les patients qui prennent des médicaments qui diminuent le système immunitaire, comme par exemple la cortisone, qui en est un, mais aussi d'autres médicaments, sont à risque d'avoir une moins bonne réponse au vaccin. C'est donc la raison pour laquelle, outre de prendre une troisième dose, on recommande également de maintenir les mesures sanitaires, c'est-à-dire que le vaccin protège surtout contre les formes sévères, mais le vaccin n'est pas non plus 100% efficace. On parle d'une efficacité d'environ 95%, de sorte que actuellement, puisqu'on ne peut pas facilement mesurer la réponse immunitaire face au vaccin, on ne peut pas doser facilement si le patient a eu des anticorps qui le protègent. Pour le moment, on recommande de maintenir une sécurité et de poursuivre les mesures sanitaires autant que possible. Donc, on ne demande pas aux gens de rester reclus dans leur chambre à coucher sans bouger, mais on demande aussi aux gens de faire attention, c'est-à-dire de porter des masques en public, de se laver les mains, de s'assurer d'être entouré de gens qui sont vaccinés, s'assurer que les gens qu'ils fréquentent n'ont pas non plus de symptômes qui pourraient ressembler à un rhume ou à une grippe.
J'imagine qu'il doit y avoir des manifestations de cette maladie, docteur Roy.
Ben, en fait, oui, les gens qui sont immunocompromis, c'est-à-dire les gens dont on vient de parler, là, les gens qui ont le myélome ou qui reçoivent de la chimiothérapie ou qui ont été greffés, lorsqu'ils deviennent malades, vont développer des symptômes qui sont des symptômes de fièvre, de toux, de difficultés respiratoires. Mais on sait également qu'il y a des gens qui sont des porteurs ou des excréteurs peu symptomatiques du virus. Et ça, c'est une autre particularité des gens qui sont immunocompromis, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont fait la maladie, ils peuvent excréter le virus pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, alors qu'ils n'ont plus de symptômes. Donc, le système immunitaire a un rôle à jouer à la fois pour combattre la maladie, mais pour nous arrêter l'excrétion, c'est-à-dire d'arrêter de propager le virus, même si les symptômes sont disparus.
Alors, est-ce qu'il y a des traitements? Alors, même si je vous pose la question, je le sais, parce que je suis un des bénéficiaires du traitement de cette maladie.
Oui, en fait, le myélome multiple, c'est une maladie qui a fait des progrès énormes au cours des 20 dernières années. Juste pour vous mentionner brièvement, il y a une vingtaine d'années, tout ce qu'on avait à l'époque pour traiter les patients, c'était deux ou trois médicaments et l'espérance de vie moyenne était de l'ordre de 2 à 3 ans. Les gens avaient également beaucoup de problèmes osseux avec des douleurs suite aux fractures et puis décédaient souvent dans des souffrances qui étaient très importantes. Alors, grâce à la recherche au cours des 20 dernières années, on a maintenant plusieurs médicaments qui sont maintenant disponibles. Et en gros, il y a plusieurs classes de médicaments qui peuvent être donnés. Et en général, lorsque les gens sont jeunes, c'est-à-dire lorsqu'ils ont moins de 65 ans, qui sont en bonne forme, on va proposer une triple chimiothérapie, c'est-à-dire l'utilisation de 3 agents, le plus souvent un agent qu'on appelle le lénalidomide ou révlimide, en combinaison avec le bortézomib ou Velcade, avec une forte cortisone qu'on appelle la dexamétasone, suivi d'une autogreffe de cellules souches, c'est-à-dire qu'on va utiliser une chimiothérapie à haute dose et on va redonner les propres cellules souches du patient pour diminuer la période de temps durant laquelle les globules blancs seront diminués et donc de diminuer les risques d'infection. Par la suite, on va donner un traitement qu'on appelle un traitement d'entretien, c'est-à-dire pour essayer de garder la maladie sous contrôle, de l'empêcher de muter, de développer des résistances jusque pendant un minimum de 2 années. Pour les patients plus âgés, c'est-à-dire ceux qui ont 70 ans et plus ou qui sont en mauvaise forme, qui ont plusieurs comorbidités, bien à ce moment-là, on va plutôt opter vers des traitements de chimiothérapie de type bortézomibe avec ou sans révlimide, avec dexamethasone et on va traiter en fait pendant un certain nombre de mois, soit jusqu'à le développement d'effets secondaires ou bien lors d'une progression de la maladie. Et il faut se rappeler que le myélome, ce n'est pas une seule maladie, mais probablement plusieurs maladies dont le comportement est très variable d'une personne à l'autre. Et en moyenne, lorsqu'on dit qu'on a un myélome, si on regarde tous les cas de myélome de tous les âges confondus, de tous les stades, les cas légers et les cas sévères, on a une espérance de vie qui est maintenant de l'ordre de 7 à 8 ans. Toutefois, cette espérance de vie-là varie beaucoup d'un patient à l'autre selon différents facteurs, selon l'âge évidemment, selon le stade de la maladie, selon l'atteinte des organes cibles, selon certaines anomalies génétiques qu'on peut dépister en faisant des ponctions de moelle osseuse et en regardant les chromosomes qui sont présents dans les cellules de myélome qu'on appelle des plasmocytes. Alors, c'est une maladie qui se traite très bien et qui est en fait un modèle de médecine personnalisée. Pourquoi? Parce que, dépendamment de tous les facteurs que j'ai mentionnés, on pourra élaborer un traitement qui va être adapté, donc personnalisé au patient qui est devant nous. Donc, beaucoup de progrès ont été faits, beaucoup d'autres sont à venir puisque le pipeline de nouveaux médicaments contre le myélome est tout plein de nouvelles molécules qui sont actuellement en train d'être testées chez l'humain et chez l'animal. Donc, évidemment, on ne souhaite pas à personne cette maladie-là, mais c'est un bon moment, en fait, pour recevoir des traitements, puisque la science a fait des bonds géants pour le traitement.
Est-ce qu'il y a des risques de complications infectieuses quand on a cette maladie, Dr. Roy?
Oui, tout à fait. En fait, le myélome multiple, l'une de ses caractéristiques, c'est l'affaiblissement du système immunitaire. Et on parlait tantôt du site de la maladie qui est la moelle osseuse. En fait, la moelle osseuse devient envahie par des cellules qu'on appelle des plasmocytes malins, donc des plasmocytes qui ne font pas leur travail. Le travail habituel d'un plasmocyte, c'est de fabriquer des anticorps, c'est-à-dire des protéines qui vont se lier aux bactéries, aux virus, aux champignons, ou à tous les autres agents infectieux auxquels on va être exposé durant notre vie. Et ces anticorps-là sont essentiels pour lutter contre les différents germes qui nous entourent. Donc, si on a un myélome multiple, on se retrouve avec une population de cellules immunitaires qui est diminuée, qui est affaiblie, de sorte que la production d'anticorps diminue de façon importante. Et il y a un risque d'infection qui est beaucoup plus grand. Et aussi, lorsqu'on est en présence d'une infection, d'avoir des infections qui sont plus sévères. Et ceci est particulièrement vrai pour les infections bactériennes comme les sinusites, les bronchites, les pneumonies. D'autre part, le traitement aussi peut aggraver les choses. C'est-à-dire que les traitements qu'on utilise, les agents de chimiothérapie, peuvent contribuer, du moins temporairement, à affaiblir davantage le système immunitaire et à donner d'autres types d'infections, notamment des infections virales comme le zona, d'où l'importance de recevoir des vaccins et de bien surveiller s'il y a de la fièvre ou des symptômes lorsqu'on est atteint d'un myélome multiple.
Avec la pandémie de la COVID-19, est-ce qu'il y a des patients et qui sont atteints de myélose, est-ce qu'il y a un impact sur les patients qui sont atteints de myélome multiple, docteur Roy, pour terminer.
Oui, en fait, malheureusement, le risque de décès de la COVID-19 lorsqu'on est atteint de myélome est clairement augmenté, d'où l'importance d'avoir les trois doses de vaccin et aussi de s'entourer de gens qui sont vaccinés tout en respectant les mesures sanitaires. Et on n'a pas d'outils faciles pour pouvoir déterminer lequel des patients avec un myélome multiple sera à risque de décès. On n'a pas d'outils pour le prédire. C'est difficilement prévisible, de sorte que les consignes et les précautions devraient s'appliquer franchement à tous les patients.
Docteur Roy, ça a été un plaisir de vous recevoir à l'émission samedi midi inter. C'est votre deuxième et non la dernière.
Ça m'a fait grand plaisir. Je vous en prie. À la prochaine. Donc.
À la prochaine. C'était Docteur Jean Roy, un médecin hématologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. En passant, je vous le dis, c'est mon hématologue également. Nous allons faire une petite pause et je vous reviens. Vous êtes sur la bonne longueur d'onde, 90.3 FM, l'émission samedi midi inter.
Tu devrais aller chez Jean Coutu.
Vous souffrez de diabète, hypertension, cholestérol. Vous devez renouveler vos prescriptions. Vous avez une nouvelle prescription. Ou encore, vous avez de la difficulté à suivre vos prescriptions. Eh bien, votre solution santé est la pharmacie Jean Coutu, Beverly Salomon. Nommé meilleur laboratoire de toutes les pharmacies Jean Coutu au Québec. 514-251-0555. Situé au 5965 rue Bélanger, coin Lacour. Et n'oubliez pas, nous livrons partout. Pharmacie Jean Coutu, Beverly Salomon, meilleur laboratoire au Québec.
J'en vais chez Jean Coutu, j'en vais chez Jean Coutu, j'en vais chez Jean Coutu, j'en vais chez Jean Coutu.
Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet et il y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur, faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
Bonjour, je suis Stéphane Boyer, candidat à la mairie de Laval pour le mouvement Lavalois.
Et je suis Jocelyne Frédéric Gauthier. Nous voulons une bonne qualité de vie dans nos quartiers avec plusieurs parcs et infrastructures sportives.
Annick Saint-Gore, pour une meilleure sécurité dans nos quartiers, assurons-nous que le service de police se rapproche encore plus de la communauté.
Notre équipe reflète réellement la communauté lavalloise. Moi, Rémi Nouampil.
Maxime Rodrigue, agent officiel du mouvement Lavalois, équipe Stéphane Boyer.
À Digicel, le mois d'octobre se célèbre. Digicel vous propose 8 fois la valeur sur vos recharges vers Haïti. Envoyez 15$ en plus de crédit vers Haïti et vos proches recevront 8 fois la valeur, plus 8 gigas de données. Rendez-vous chez un agent chaque mercredi, vendredi, samedi et dimanche du mois d'octobre. Oui, envoyez 15$ en plus de recharges vers Haïti et vos proches recevront 8 fois la valeur, plus 8 gigas de données, afin que vous restiez toujours connectés à ceux qui vous sont si chers. Rendez-vous chez un agent Digicel pour envoyer des recharges. Cette offre est valable chaque mercredi, vendredi, samedi et dimanche du mois d'octobre. Termes et conditions applicables.
Salut, on se connaît pas et probablement qu'on se croisera jamais. En fait, ça n'a pas d'importance. Par contre, il y a des gens à qui tu tiens et ça t'inquiète qu'ils doutent et hésitent à se faire vacciner contre la COVID-19. Même chose pour leurs enfants. On a tous nos raisons, mais en prenant le temps de les écouter, on peut mieux les rassurer et les accompagner. Et ça, c'est important.
Comprendre l'autre, c'est d'abord l'écouter. Des questions sur les vaccins? Visitez québec.ca/parlons-vaccin. Un message du gouvernement du Québec.
Si là, qu'il y a pile sens, pourtant les sommes pas jamais interprétés le même genre. Nous toujours tendez, nous dit que tout chemin mène à voir. Nous malais d'après elle, en pile nous tomber dans le trou. Si la vie, faut pas choisir chemin crochi, un chemin qui doit un jour avoir un succès.
L'émission Samedi Midi Inter, il s'agit de Bolivar Louis, et architecte de sécurité technique internationale, spécialiste en gouvernance de la sécurité des systèmes d'information, ancien fonctionnaire de l'Organisation des États américains et des Nations Unies en Haïti. Bolivar Louis, c'est avec plaisir que nous recevons l'émission Samedi Midi Inter. Comment allez-vous?
Non, très bien, Laurent, et encore bonsoir, et bonsoir à tout auditeur Radio Sécurité. Donc, c'est un plaisir pour nous capables de parler, pour nous capables de brasser l'idée.
Alors, et nous pouvons brasser l'idée, le nom gardé, brigandage qui gagne dans affaires et système de justice en Haïti, nous avons jeudi qui s'acrivait dans le palais de justice, côté que nous chaviré les dossiers et que nous sommes capables de dire est très important dans l'affaire et assassinat Jovenel Moïse. Alors, qui est capable de dire de ça? Et dans quel pays est capable de faire fête ça passé jeudi dans la journée, non pas la justice, à Port-au-Prince?
Bon, l'entendez, moi, lis un journal sur question ça, à mon mairie, je dis moi-même, en tant qu'architecte de sécurité du système d'information, donc, si on fait normal, pour qui ça, si on fait normal? Parce que lorsque vous avez des données qui sont sensibles, il faut que vous donnez ça à sécuriser. Et à l'échelle gouvernementale, il faut que vous ayez un cadre de gouvernance de la sécurité des données. Parce qu'un cadre de sécurité des données, ça permet que vous envisagez quatre piliers qui sont liés à la sécurité des informations pour que ça ne vienne pas arriver. Parce que ça arrive plusieurs fois déjà, Raymond. C'est qu'est-ce qui a été fait? Parce que dans des doyens, encore, moi, je ris beaucoup plus, moi, je ris, moi, triste à la fois. Parce que, il y a un pays où il y a des tribunaux, mais plusieurs fois ça arrive, il faut que vous preniez des mesures, vous preniez un cadre de gouvernance qui fixe comment vous donnez aux sécurités. D'abord, il faut faire la classification des données, il faut faire inventaire de sensibilité, de criticité des données. Deuxièmement, tu es capable de dire que, OK, nous avons des données, ça arrive déjà. Nous allons agir sur quatre axes. Premier axe, hein? Comment nous allons garantir la disponibilité des données pour que les données, quelles que soient dans le tribunal, que soit au niveau du ministère, comment donner ça qui est toujours disponible. Deuxièmement, c'est protéger l'intégrité des données. Est-ce que les données, en fonction des criticités, il y a des gens qui arrivent à changer une donnée, qui arrivent à changer une page d'un document, qui arrivent à remplacer quelques données, changer, faire un contre-effet d'une signature. Troisièmement, c'est confidentialité d'information. Est-ce que, nous voyons contre le scandale, une décision prenant le palais national ou le ministère, qui est sur Facebook et sur les réseaux sociaux, ça signifie que confidentialité n'est pas garantie. Quatrième pilier, c'est ça que l'imputabilité. Je me dis, il doit y avoir moins de vie. Pour qui ça, moins de vie? Doyen dit que il fait inventer à donner, c'est-à-dire juge de l'État avant même spécialiste de l'État, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de souiller cette décision-là. Donc, imputabilité, qu'on peut l'aider encore. Deuxièmement, dit que Portland n'a pas cassé ou pas cassé. Mais que c'est le monde à l'interne qui fait question. Maintenant, est-ce qu'il y a des mécanismes qui mettent en place pour être capable de faire imputer à passer à un monde. Et des CPJ par le cartonné, mais pas un cadre qui définit si que ça arrive, voilà ce qu'on va faire. Ça montre que nous avons une situation que, en absence de gouvernance totale, pas seulement la gouvernance de la sécurité des informations, mais on regarde beaucoup plus macro, au niveau national, il y a une absence de cadre de gouvernance secours. Donc, si ça arrive dans le pays, ce n'est pas étonnant parce que absence de cadre de gouvernance.
Alors, Bolivar Louis, le nom gardé, l'air dit que nous avons une république de bananes, nous mauvais. Même quoi que c'est une preuve que nous avons une république de bananes pour que yon tel et nous sommes capables de dire et bagaille passer dans le bureau un juge qui a un dossier aussi important. Et là, nous connaissons qui est ce monde. Et qui dans le dossier ça, et nous capables de prendre la controverse qui gagne entre Martine et la première dame, ainsi que le fils de Jovenel, qui n'est pas l'enfant de Martine, lui-même, lui déjà proposé comme un monde qui pourra le témoigner devant le juge. Parce qu'il y a un pile mensonge qui baille dans le dossier ça.
C'est sont très belles. Ça devient extrêmement capital. On fait une analyse sur la question carrément. Lorsque vous avez un ensemble de données, vous avez un ensemble d'actifs, qui ont des menaces, il faut que vous identifiez qui nature menace, qui nature risque
qui gagne sous sa couvre de protéger. Maintenant, lorsqu'on regarde l'intérêt des détails, c'est-à-dire en fonction de nature intérêt, on est capable de déterminer la nature de menace. Maintenant, données qu'on gagne pour faire procédure là, ils viennent à haut risque. Maintenant, lorsque c'est à haut risque, on va prendre des mesures de mitigation. Par exemple, le doyen dit que le jugement, il félicite le jugement parce que il prend des mesures personnelles pour être capable de protéger une partie de nos données. Encore, ce n'est pas au juge en personne d'envisager des mesures. Il faut que les mesures aient un protocole qui est établi au niveau du ministère pour appliquer dans tous les tribunaux, les cours des tribunaux. Donc, lorsqu'on regarde l'itinéraire entre les jeunes hommes et belle-mère, entre à toi raison du premier ministre et l'indice, tout ça, ça montre que données sont à haut risque. Maintenant, qui mesure de mitigation? Pas qui mesure de mitigation? Moi-même, doyen, féliciter le juge, mais le doyen t'a supposé un petit peu gêné, parce que au niveau du décanat, pas aucun cadre qui définit pour protéger les données. Donc, c'est là, mon pays, la République, ça ne marche pas.
Alors, ce qui est encore plus grave, c'est que l'acte SAO, il n'est pas nouveau dans le palais de justice de Port-au-Prince.
Oui, oui. Encore, sous son digne, on peut y aller. Parce que lorsque, même si c'est la caillou, si on va la rentrer pour une première fois la caillou, puis entre une deuxième fois, maintenant, ça parle d'une base pour dire que voler a dû se rentrer. Comment voler a fondé rentrer dans la caillou? Qui me dit que je suis capable de prendre pour me décourager voler? Parce qu'en matière de sécurité, il y a ça que la prévention. Il faut que je puisse prendre des mesures pour d'abord décourager voler à vos vignes. S'il t'arrive, il pose une difficulté pour accéder à l'espace. Et s'il t'arrive, briser deuxième ligne, pour qu'il nous détecte le voleur. Donc, là, nous avons occurrence dans la question, dans la question de la question dans le cabinet d'instruction. Maintenant, il parle par exemple d'un coffre-fort. On a un coffre-fort, il a changé de clé, il n'est pas capable terminer le code là. On va faire appel à des spécialistes là. Là, un code doyen t'a supposé gêner. Pour quelle raison? Si quelqu'un a un coffre fort qui a un ensemble de données, le code là n'a pas qu'à distribuer à tout le monde. Il faut que le technicien ait un nombre restreint qui a accès à code coffre fort. Pour que si il y a des données sensibles à la coffre fort et le code coffre fort avec un compromis, la politique est très facile pour déterminer qui monde. C'est ça que vous dites dans la quatrième pilier, l'imputabilité. Donc, doyen, par exemple, en mesure pour identifier le monde qui a accès à la code là, qui quantité de monde qui a accès à la code là, pour qui ça, le monde qui a accès à la code là, il y a ce qu'on appelle le besoin de savoir. Est-ce que tout le monde qui a accès à la code, coffre fort, doit être habilité pour avoir accès à la code là? Maintenant, si oui, groupe monde ça, donc c'est bizarre. Facile pour décider de déterminer maintenant. Mais maintenant, est-ce que tu as une politique, tu as un circulaire, tu as un objectif pour dire que le code là, ni condition pour gagner accès à code, quoi faut faire, ni qui type de monde qui a accès à code là, donc ni qui fréquence pour le monde qui a accès à code là. Donc là, c'est doyen, c'est aussi confusion la question. Hein. Donc la République est en danger.
Alors, si nous avons avancé plus loin, le nous regardons dans la situation du pays d'Haïti qu'on y a, et qui sont pensés, ou même qui travaillent dans l'ONU, ou travaillent dans l'OEA, et ou qu'on une politique américaine très bien, est-ce que ce n'est pas Mounsaïo qui mettait Haïti dans l'état que l'y a, juste pour que nos plus pauvres nous plus enterrés que gens que nous y qu'on y a là. Et nous pas capables de vivre plus loin que ça.
Sur ce dire, il y a une grande préoccupation. Préoccupation, par exemple, il y a des mondes internationaux qui ont poussé, il faut qu'il y ait une élection, il faut qu'il y ait une élection. Une élection démocratique. Mais lorsqu'on regarde la cartographie, gagne y a un an dans Port-au-Prince. Autre chose, on va regarder en fonction des données les dernières élections que nous avons eues. Parce que le département de l'Ouest, il y a 40% électoral. Lors, par exemple, l'électorat d'Elma, il est supérieur à l'électorat NIP et Grandance. En même temps, en somme, l'électorat Grandance plus NIP, l'électorat d'Elma beaucoup plus. C'est-à-dire que sous journalité, il y a avec 500 combien de mille voix, sous point électorat d'Elma, car d'Elma a été un président. Lorsque point Matissan, qui a environ 60% électorat, Matissan, c'est troisième section, qui a près de 60% électorat dans le bassin Port-au-Prince. Donc, Matissan a presque été un président. Sous point cartographie, Gagnon. Gagnon, dans une zone occupée, quand nous sommes président. Lorsque vous venez des pays, nous disons qu'il faut que l'élection soit à tout prix avec la présence de M. Sayo, c'est-à-dire que nous avons un monde qui parle président avec force et appui de Gagnon Sayo. Donc, il n'a rien à voir avec le pays. Donc, cela signifie que, est-ce que mon cap parle fort, yo, je vais me poser vos problèmes, yo, pour qu'elle dise voilà ce qu'on peut faire pour sauver le pays. Avenir jeunesse s'en compromettre. Et pas d'aucun effort que je fais là, mais il y a un cap de pensée pour le bien du pays. Que ce soit pour les locaux et ce qui se dit à Milaïti.
Ma pétante, il y a un historien, médecin, en la personne de Georges Jean-Michel, un ancien constituant. Monsieur l'irrité très inquiet. Monsieur lui dit que le spectre d'une nouvelle intervention militaire se profile sur le pays. Et le nom gardé sa cap fête à Konya, côté que nous gagnons un gouvernement de facto, d'abord, que non cité dans l'assassinat de Jovenel Moïse et tant d'autres. Est-ce que ce n'est pas une situation triste? Et venir joindre avec les Américains kidnappés, avec un Canadien, au nombre de 17, est-ce que nous pas au bord d'une autre occupation américaine?
Moi-même, je ne parle de lien indispensable. Pour quelle raison? Parce que au bon l'État qui faillit, et même les gens qui sont souterrains, c'est un branchement, un octopus, un pieuvre. Parce que ouais, ni les gens qui sont en face d'Ariel, ni Ariel, les gens qui sont à côté d'Ariel, ils travaillent pour le même patron. Donc, le patron prend la responsabilité en charge. Parce que la justice faillit, l'éducation a crasé, le système santé n'a pas existé, la sécurité n'a pas existé, l'infrastructure n'a pas existé. Donc, on a un pays qui faillit. Le fait que tout le monde a un acteur qui est en poste, qui a une responsabilité, c'est comme ça que je suis ils sont en poste, mais qui sont des irresponsables. Comme ils travaillent pour le même patron, que le patron hein, prend ça en charge. Parce que ouais, des missionnaires qui kidnappent, des médecins qui kidnappent, des élèves de l'école, tout le monde dans la couche, sociale, kidnappé, torturé, tout ça. Donc, il faut que Guignon Barré qui fait. Surtout pour le Canada, les États-Unis, le pays, il faut que y ait une responsabilité morale dans la question. Hein, et puis, il y a une responsabilité directe parce que le groupe qui a soutenu un régime qui n'a pas d'autonomie, c'est un agenda. Agenda seulement de tout pays. Il faut qu'il y ait un point pour dire attention. Il faut regarder les Haïtiens comme ça, c'est la pire comme ça. Il va y avoir une menace aux hommes. Puis, il n'y a pas de responsabilité. Est-ce que son occupation, est-ce que son tutorat, ça fait longtemps qu'il n'y a pas les que. Pour être dans l'instant du Kosovo, il y a un ambassadeur qui chapitre dans la fondamentale des Nations Unies pour que les Nations Unies prennent en charge. Maintenant, les Nations Unies en charge, ce n'est pas un bon résultat. Nous voyons que le président de la secrétaire générale, qui toute action en fait, c'est pour craser le pays, il y a beaucoup de sous, toujours. Maintenant, qui va aider le pays? Moi, je suis très inquiet parce que, on parle, même mon. Parce qu'un petit moment, Raymond, il y a un peu intellectuel dans le pays, hein, qui toujours dit que oh, nous sommes en réserve de la République. C'est comme si on fait un monde dans le bateau, nous avons compassé dans le bateau, le bateau a coulé, non, attention, pas de problème. Nous avons sauvé le bateau à devant. Le bateau a coulé, attention, nous en réserve, nous avons navigué tout.
Alors, et l'organe, le monde qui dit que l'y en réserve, là, c'est pas n'importe qui, en plus.
Exactement, il y a des professeurs d'université, des gens qui connaissent l'intérieur quand nous sommes en réserve. Maman, Léo, on réserve de complices. Et on réserve du responsable. C'est parce que le pays s'effondre. Et puis, mon sang était là au confortable.
Nous pourrons le terminer, Bolivar Louis, le nous garde des situations que le pays a vive. Nous connaissons que nous avons plusieurs accords et nous entendons plusieurs interventions du côté de l'ONU. Et Kankou et Magali, qui fait partie du groupe de Montana, nous entendons Mme Désulmé également, qui fait des interventions. Et je crois que Mounsaï est au clair. Mais là, nous connaissons qui est ce monde qui contrôlait les gangs, et nous rappelons nous, et c'est M. Solario, c'est eux-mêmes qui débaillent Michel Mantelli pouvoir avec tout Laurent Lamotte, et nous sommes toujours sur le terrain. Est-ce que vous avez une inquiétude, vous mettez des gens que vous voulez, parce que nous connaissons les gens qui sont restés avec Bill Clinton et compagnie que vous c'est vous qui finissez votre terre. Et nous avons même déjà moun boycott, il y a tellement sans honte qu'il a publié que vous prenez dans le conseil électoral provisoire pour défendre la diaspora.
Raymond, je ne vais pas dire plus pour des raisons professionnelles. Je vais souhaiter tout le monde qui a attendu l'émission à noter ça dans le là. Tant que nous passons audit de sécurité, des centres de tabulation en Haïti. Ça me dit quoi? Tant qu'il n'y a pas d'un audit de sécurité indépendant de centres de tabulation, l'élection en Haïti n'est pas bien honnête, pas bien démocratique, parce que au cas de gagner l'ensemble de vote, ou perdu l'ensemble de tabulation. Au cas de perdre l'ensemble de vote, ou gagner l'ensemble de tabulation. Donc, il faut auditer et d'appliquer les questions, d'appliquer les bagages avec les jeunes. Je ne vais pas dire plus. Tout le monde qui parle d'élection m'a dit d'abord audit de sécurité, de centre de tabulation. Laissez-nous espérer. Et si on a une centre de vote, là, il y a une centre de tabulation.
Et non pas oublier que y a une question de fraude avec un dermalogue. Et donc, on a qui est ce monde qui signe un contrat avec un dermalogue. C'est l'audacieuse qui a fait campagne après Marie-Le Fin mourir et en la personne de Martine Moïse.
Vraiment, bonjour, Marie. Lorsque Pierre-Louis Aupon t'a dit que Jésus va le multiplier, c'est pas sa centralisation de bail, ça que supposé aligner Mounio pour aller en profondeur. Malheureusement, avec tout le monde qui désigne à l'élection. Quatre dialogues là. En cette façon, qui sont bien malades, c'est un audit de sécurité. Ça m'a bien extrêmement bien. Malheureusement, pas qu'à les détails et pas supposé par les détails. Mais si vous menez un audit de sécurité, de centralisation, vous êtes capable de poser les questions.
Alors, et Bolivar Louis, c'est toujours avec plaisir que nous recevons l'émission samedi midi à terre. Napédio, merci beaucoup. Et à la prochaine.
Merci à la prochaine. Donc, merci beaucoup et merci à tout auditeur pour votre présentation de capitaine d'émission.
Alors, c'était Bolivar Louis, un ancien employé de l'ONU et de l'OEA. Nous allons faire une pause, nous tournons tout à l'heure. Alors, nous allons faire un petit coup de pied à Washington, côté que nous gagnons une militante et que nous entendons à plusieurs reprises sur les ondes de sécurité. Et c'est Mme Sabine Philippe, depuis Washington, éducatrice combattante pour Haïti. Sabine Nabdou, bonjour, bienvenue sur l'antenne de sécurité à Montréal.
Bonjour Raymond, bonjour Tantan, et on salue le staff de la radio Sécalité, nous dit tout le monde bonsoir, nous saluons tout auditeur et auditrice qui a écouté nous à travers le monde, et nous toujours dit que c'est un plaisir pour nous, et le nous sous espace là, pour nous faire parler sous actualité pays.
Est-ce qu'on comprend ça qui passe dans le pays avec un gouvernement de facto? Côté que nous avons actuellement là deux mondes qui étaient à visiter la diaspora. Et d'après l'information que nous avons qui est tombée jeudi, eh bien, nous a donné que la police a mis un mandat de elle. Alors, nous connaissons deux talés et deux mondes qui n'ont pas gagné aucune crédibilité au niveau politique. On a parlé de André Michel et ancien sénateur Daniel Cassi.
Bon, et nous-mêmes, dans la danse, nous pas fait spéculation, nous pas d'informations directement, mais seulement nous avons dit, c'est que et son situation qui est grave. C'est très malheureux que nous voyons que ces mêmes bagailles et même politique là qui veut continuer, en politique d'ailleurs contre laquelle nous-mêmes nous avons goûté depuis le mois de mai dernier, j'en connais à Washington DC et à New York. Mais l'île Cougnier pour tout le monde prend conscience que bagaille là vraiment pas bon. Vous posez une question qui ça me comprend la situation haïtienne. Eh bien, c'est une situation qui tout à fait confuse. OK, son situation côté personne pas capable clair côté un paquet moustique a volé ou pas qui ça mal qui ça femelle le fini un paquet bagaille a passé qui vient mouiller quand là qui d'adou mené Haïti non état de cinéma de comédie à n'en plus finir personne pas compte qui ça toute bagaille qui a passé au sans pied ni tête et peuple a continué à souffrir, peuple a continué dans la misère pirette et Haïti a continué spirale descendante liant à l'infini. Donc nous-mêmes dans la diaspora, nous décidé depuis mai 2021 que nous pas quitter bagaille ça yo passer encore, nous pas quitter le passé comme ça encore en Haïti. Nous pas impliquer nous, n'a continuer faire pression, n'a continuer dénoncer ennemi intérieur yo à extérieur yo et par contre sous réaliser que Kounia sont conscients